pensa Alejandra. Je ne vais pas passer la nuit ici. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, ces parents. La jolie cuisinière semblait avoir recouvré tous ses esprits. Ils veulent seulement être ici, expliqua Lupe. Ils veulent que Vargas sache qu'ils vont bien. Ils sont très contents que vous n'ayez pas embarqué dans cet avion, dit-elle à l'adresse du docteur. Dès que Juan Diego eut traduit ce que venait de dire sa sœur, Vargas fit un signe d'acquiescement à Lupe. Pas de doute, il savait parfaitement qui était à l'origine de ces phénomènes. Il referma la boîte à café et la rendit à la gamine. Si tu touches ces cendres, ne mets pas tes doigts dans ta bouche ou dans tes yeux après, la prévint-il. Lave-toi les mains. La peinture, la térébenthine, les colorants, ce sont des poisons. L'épée glissa sur le sol de la cuisine où il se tenait. Le bruit fut assourdi par le sol en bois. Ça, c'est la troisième épée, celle du planton à la porte, dit Alejandra. Il la dépose toujours dans la cuisine. Frère Pepe et Edward Boncho étaient allés jeter un coup d'œil dans le couloir. Le tableau du sermon sur la montagne était de travers sur le mur. Pepe le remit d'équerre. Sans même les regarder, Vargas dit « Ils veulent attirer mon attention sur les béatitudes. » Dans le hall, l'Américain s'était mis à réciter « Béni soit, etc., etc. » « On peut croire aux fantômes sans croire en Dieu, » dit Vargas sur la défensive aux deux enfants. « Ça va, » dit Lupe. « Vous êtes plus sympa que je ne pensais. Et vous, vous n'avez pas une haleine de suceuse, » concéda-t-elle à Alejandra. « Ça sent bon. On devrait se mettre à table. » Juan Diego décida de ne traduire que la dernière phrase. « Béni soient les cœurs purs, car ils verront Dieu, » continuait Seigneur Eduardo. Celui-ci n'était pas d'accord avec le docteur Vargas. Il était persuadé que croire aux fantômes impliquait de croire en Dieu. Pour lui, ça revenait au même. Et Juan Diego, à quoi croyait-il alors? Et maintenant? Il avait vu ce que les fantômes étaient capables de faire. Avait-il été témoin d'un mouvement perceptible de la Vierge géante, ou l'avait-il seulement imaginé? Sans parler de ce qui s'était passé avec le nez, il y a des choses qu'on n'explique pas, et qui sont pourtant bien réelles. Chapitre 21. Mister va se baigner. Croire aux fantômes et croire en Dieu, c'est pas la même chose, avait clamé l'ancien lecteur de la décharge. Juan Diego était bien plus explicite que le docteur Vargas ne l'avait jamais été au sujet des fantômes de ses parents. Mais l'écrivain rêvait qu'il se disputait avec Clark French, et là, plus question de fantômes ni de croyance en Dieu. Le pape polonais faisait une fois de plus l'objet de leur chamaillerie. Il assimilait en effet l'avortement et la contraception à une décadence morale, ce qui exaspérait Juan Diego. Au demeurant, ce pape, qui leur avait déclaré une guerre sans trêve, voyait encore en eux les ennemis contemporains de la famille, jusque dans les années 80. « Vous sortez toujours les choses de leur contexte », avait maintes fois répété Clark French à son professeur. À la fin des années 80, Jean-Paul II avait qualifié le port du préservatif de « moralement illicite ». Même pour prévenir le sida. Le contexte, c'était l'épidémie de sida, Clark, s'était insurgé Juan Diego, durant leur discussion, mais aussi dans son sommeil. Et voilà qu'il se réveillait en clamant que croire aux fantômes et croire en Dieu, ce n'était pas la même chose. C'était bien embarrassant, ces transitions entre le rêve et la réalité. Les fantômes, continua-t-il, puis il s'assit dans le lit et se tut. Il était seul dans sa chambre à l'Encantador. Cette fois, Myriam avait bel et bien disparu. Elle n'était pas dans le lit avec lui à retenir mystérieusement sa respiration. Myriam, risqua-t-il au cas où elle aurait été dans la salle de bain. Mais la porte était ouverte et personne ne répondit. Un autre coq chanta. Au moins, celui-ci n'était-il pas Maboul. La lumière du matin inondait la chambre, et c'était le nouvel an, à Bohol. Par la fenêtre ouverte, Juan Diego entendait les enfants jouer dans la piscine. Quand il entra dans la salle de bain, il eut la surprise de découvrir ses médicaments éparpillés sur la tablette du lavabo. S'était-il levé pendant la nuit? Et dans un demi-sommeil ou dans l'ivresse d'une extase sexuelle accomplie, avait-il englouti une poignée de pilules? Si c'était le cas, combien en avait-il avalé et lesquelles? Les flacons de Viagra et de l'oppressor étaient ouverts, les pilules répandues, y compris par terre. Myriam était-elle accro aux médicaments? Mais quand bien même, quelle stimulation pouvait-elle attendre des bêta-bloquants? Et le Viagra? Il n'avait aucun effet connu chez les femmes. Juan Diego fit un peu de ménage. Il prit une douche à l'extérieur, s'amusant des chats qui faisaient des apparitions furtives sur les tuiles du toit et lui miaulaient des choses désagréables. C'était peut-être l'un d'eux qui, sous le couvert de la nuit, avait estourbi le coq dérangé. Les chats ne sont-ils pas des tueurs nés? Il finissait de s'habiller quand il entendit des sirènes, ou ce qui y ressemblait. Peut-être un corps apporté par la marée, un des participants au karaoké de la nuit précédente au beach club de l'île Panglao, un adepte des bains de minuit qui avait dansé toute la soirée et qui, pris de crampes, s'était noyé, à moins que les Nocturnal Monkeys n'aient décidé de se baigner à poil et que l'aventure se soit mal terminée. Juan Diego, en écrivain qu'il était, laissait vagabonder son imagination sur d'infernales scènes de mort. Mais au moment où il descendait vers la salle à manger, il vit l'ambulance et la voiture de police garées dans l'allée de l'hôtel. Toujours prêt à donner un coup de main, Clark French montait la garde en bas de l'escalier menant à la bibliothèque du premier étage. « Je fais en sorte d'éloigner les enfants. »«
Les éloigner de quoi, Clark ?»«
Josefa est là-haut avec le médecin et la police. »« Tante Carmen était dans la chambre en face de celle de votre amie. »« Je ne savais pas qu'elle partait si tôt. »
« Qui ça, Clark? Qui est parti?
Votre ami ?»« Je sais bien que c'était le réveillon, mais dire qu'elle a fait tout ce chemin pour une seule nuit ?» Juan Diego ignorait que Myriam devait partir. Il avait l'air décontenancé.
« Elle ne vous a pas prévenu ?»«
Moi qui pensais que vous la connaissiez. » D'après la réception, elle avait un vol très tôt dans la matinée. Une voiture est venue la chercher avant le lever du soleil. Toutes les portes de l'étage étaient grandes ouvertes après son départ. C'est comme ça qu'ils ont trouvé Tante Carmen.
Qu'ils l'ont trouvé... Trouvé où, Clark?
Pour l'ancien professeur de littérature, la chronologie du récit n'était pas claire, comme dans les romans de Clark French.
Par terre, dans sa chambre?
Entre son lit et la salle de bain?
Tante Carmen est morte?
Quelle horreur, Clark!
Est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'elle était...
Clark French l'interrompit et lui désigna la réception. « Elle a laissé une lettre pour vous à l'accueil. »«
Tante Carmen m'a écrit ? Mais non, c'est votre amie qui a laissé une lettre pour vous, pas Tante Carmen. »«
Salut, mister !»
lança Consuelo. La petite fille Onate s'était glissée à côté de lui, flanquée de Pedro.
« Les enfants, vous ne montez pas !»
leur signifia Clark French. Et ils avaient décidé d'emboîter le pas de Juan Diego qui clopinait vers la réception.
La tante, celle qui avait tous les poissons, elle est morte, mister,
annonça Pedro.
Elle s'est brisée le cou,
continua Consuelo.
Comment on fait pour se briser le cou en sortant de son lit, mister?
Demanda Pedro.
Aucune idée.
La dame qui apparaît comme par enchantement vient de disparaître, mister,
dit Consuelo. Juan Diego rejoignit la réception. D'un air à la fois empressé et anxieux, le préposé lui tendit la lettre.
« Madame Myriam a laissé ceci pour vous, monsieur. Elle a dû prendre un vol très tôt. »
Ainsi, personne ne connaissait son nom de famille. Clark French avait rejoint la petite troupe.
« Est-ce que Madame Myriam est une habituée de l'Encantador? Est-ce qu'il y a un monsieur Myriam ? » demanda-t-il au réceptionniste.
Juan Diego connaissait bien cette réprobation dans le timbre de sa voix, cette fièvre qu'il retrouvait aussi dans son timbre d'écriture.
« Elle est déjà venue, mais pas très souvent. Elle a une fille, monsieur. »«
Dorothy ?» demanda Juan Diego.
« Oui, monsieur, Dorothy, c'est comme ça qu'elle s'appelle, » précisa l'employé. « Vous connaissez la mère et la fille ?» demanda Clark French à son professeur.
Sa voix était en mode alerte morale maximale.
J'étais d'abord plus proche de la fille, Clark, mais je venais de les rencontrer sur le vol New York-Hong Kong. Elles ont une grande expérience des voyages, c'est tout ce que je sais d'elles.
En effet, elles ont l'air d'avoir de l'expérience, Myriam en particulier, le coupa Clark.
Le mot « expérience » n'était pas bien vu des catholiques pratiquants comme Clark.